Bonjour et bienvenue à tous. Profil est au rendez-vous de la rentrée. A le plaisir de vous présenter à nouveau sur l'antenne de Fréquence Protestante, son émission mensuelle sur le cinéma champ contre champ. Émission qui sera bien sûr consacrée aux films qui viennent de sortir et qui sera présentée par moi-même, Jean Lo, et j'aurai à côté de moi Françoise Lo. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Jacques Champeau. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Et Jean-Michel Ducaire. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Jean.
Alors, rentrée fracassante, plutôt en demi-teinte à vrai dire. Somme toute, pour moi, assez décevante. Sans doute, il y a eu fin août la sortie de la Palme d'Or d'Ipan, qui pouvait faire croire que la saison allait démarrer en feu d'artifice. Mais il a un petit peu semblé à quelques-uns d'entre nous que les pétards de ce feu d'artifice étaient assez mouillés. On en parlera. Autre film très attendu, c'était le Youth de Paolo Sorrentino. On en parlera également. Il avait fait le buzz à Cannes. Et nous avons retenu comme troisième film de ce mois, le film de David Jonnelly, Marguerite, qui donne à Catherine Fro l'occasion d'une prestation assez époustouflante. Mais c'est peut-être en évoquant les habituels coups de cœur de chacun que l'on parlera des films les plus secouants de cette rentrée de septembre 2015. Donc on va commencer avec Dipan de Jacques Audiard, Palme d'Or du Festival de Cannes cette année. Bon, ça fait un moment que Jacques Audiard grimpe les podiums, hein, avec une marche plus haute à chaque film. César du meilleur scénario en 2002 sur mes lèvres. César du meilleur film et du meilleur réalisateur en 2006 pour De battre mon cœur s'est arrêté. Grand prix du Festival de Cannes 2009 pour Un prophète, qui est aussi césarisé et reçoit en prime le prix Louis Deluc. Et par contre, petite déception en 2012 avec De Rouille et d'Os, qui échoue un peu aux portes des grandes finales. Dieu merci pour Audiard. 2015 verra encore la grande consécration avec cette palme d'or attribuée à Dipan. Alors Françoise, est-ce l'apogée de la carrière de ce cinéaste qui est un des plus médaillés du cinéma français ?
Certes, et le cinéma français se réjouit certainement de cette consécration cannoise. Pour ma part, je rejoindrai ce que dit l'un de nos hebdomadaires, à savoir « Dipan n'est pas une grande palme d'or ». Les lauriers s'adressent davantage à l'auteur qu'à son film. Un auteur dont la compétence et le talent ne sont pas en cause. Le prophète méritait largement le grand prix du jury. Jusque-là, d'ailleurs, les films d'Audiard étaient portés par de grands acteurs comme Trintignant, Kassovitz, Emmanuel De Vos, Nils Arestrup.
Oui, par contre, dans ce film-là, pas d'acteurs connus, je veux dire.
Pas d'acteurs très connus. Non, Audiard a fait appel à des acteurs non professionnels, mis à part Vincent Rottier. L'acteur qui joue Dipan vit en France depuis 15 ans. Il est réfugié politique. C'est un ancien tigre tamoul, enrôlé à l'âge de 14 ans comme enfant soldat dans l'effroyable guerre civile du Sri Lanka. On ne peut d'ailleurs qu'admirer la direction d'acteur dans tout le film.
Alors, comment tu expliques cette attribution de la Palme d'Or à Dipan ?
Ce qui peut séduire dans ce film tient sans doute en grande partie au sujet que le réalisateur a choisi, à savoir l'accueil en France de migrants chassés de chez eux par les atrocités de la guerre. Le film suit le destin de trois personnes qui essaient de quitter un camp de réfugiés au Sri Lanka, un homme, une jeune femme, une fillette. Ils ne se connaissent pas, mais ils se font passer pour une famille afin d'obtenir le statut qui leur permette d'embarquer pour l'Europe. Et on les retrouve relogés quelque part en France, au fin fond des Yvelines. L'homme, Dipan, qui est un ancien tigre tamoul, se voit engagé comme gardien dans une cité sinistre, au nom bucolique, le Pré. Dipan ne comprend pas un mot de français, pas plus d'ailleurs que la jeune femme qui, elle, trouve un emploi d'aide ménagère quelque part au 9e étage. Et la fillette est scolarisée dans une classe d'adaptation du quartier. La cité est gangrénée par le trafic de drogue et un jour, bien sûr, un conflit armé va éclater entre les dealers. Ceci dit, nous sommes face à un drame humain qui ne peut que nous émouvoir. Trois personnes, durement éprouvées par la guerre dans leur pays, se voient, et cette fois-ci dans leur pays d'accueil, à nouveau plongées dans la violence.
Enfin, voilà quelque chose qui fait quand même un petit peu penser à un film social. On est presque chez Dardenne.
Chez Dardenne, oui, mais pas pour longtemps, parce que c'est là que commence la deuxième partie du film, la banlieue en état de guerre civile. Une violence inouïe qui va réveiller l'ancien tigre tamoul chez Dipan, l'homme qui n'aimait pas la guerre. C'était le titre original du film. Et on entre alors dans un thriller haletant, comme les aime tellement Audiard, avec tous les ingrédients du genre. Coup de feu, hurlements, grosse cylindrée, moto rugissante, le sang qui ruisselle, la banlieue en flammes. Bref, on en a pour son argent. Ou pas. Et c'est alors que le film offre sa troisième partie, pour le moins inattendue, Ellipse. Et on apprend que notre petite famille a pu enfin rejoindre la Grande-Bretagne, objet de tous leurs rêves. Dipan, qui habite maintenant dans une jolie maisonnette toute blanche, est chauffeur de taxi. Et tandis que nous entendons un chœur de voix célestes, nous découvrons qu'il s'est marié avec la jeune femme, ils ont un bébé, le soleil brille et les arbres du jardin sont en fleurs. Audiard nous offre un conte de fées pour le mois des opulents, un vrai happy end.
Et ce film, peut-être cette fin, ce film a suscité beaucoup de controverses. Hein.
Oui, en tout cas sur la portée politique du film. Jacques Audiard, pourtant, se défend d'avoir fait un film politique. Peut-être qu'on pourrait en discuter.
Oui, enfin, il y a certains visages que Jacques Audiard présente des banlieues. Bon, je ne sais pas ce qu'on peut penser. Jacques, qu'est-ce que tu en dirais?
Ah, moi, j'ai beaucoup aimé le début du film, enfin même toute la première partie. Puis effectivement, j'ai pas tellement aimé la fin violente et puis l'épilogue londonien. Je crois que, en fait, le problème de ce film, c'est que, compte tenu du contexte, compte tenu de l'époque aussi où il est sorti, on veut le voir comme un film social sur la banlieue. Or, en fait, il est tout sauf ça. Audiard utilise la banlieue comme un décor, comme un cadre pour son action, mais il se contrefiche du réalisme social de ce qu'il montre. D'ailleurs, la preuve, c'est que cette cité est vide. Il n'y a ni habitants, ni policiers.
Oui, ça n'est pas curieux, vraiment très curieux.
Voilà, il y a des voyous, c'est vraiment pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, en fait, c'est trois choses, à mon avis. C'est effectivement l'histoire des réfugiés, et ça, c'est assez bien montré. C'est l'histoire de cette famille qui se recompose, et ça, personnellement, j'ai trouvé ça très intéressant, et c'est l'histoire qui court sur toute la partie du film, et qui, à mon avis, très bien filmée. Et puis, la troisième chose que veut faire Audiard, c'est un film effectivement violent, du type de ce que les Américains appellent le film vigilante, c'est-à-dire le justicier qui se fait justice lui-même, et qui est un thème très connu, enfin, de Batman à Ocean Pie ou à Gran Torino, c'est un classique du cinéma américain. Et ça, personnellement, je trouve que c'est la partie ratée du film. Enfin, en tout cas, celle où j'adhère pas. Mais pour répondre,
la deuxième, tu dis.
La partie violente, la partie etc. Ceci étant, c'est quand même un style très classique dans le cinéma américain, et il est possible que ça ait joué en faveur de la palme. C'est ce mode de film, c'est ce qui montre le héros finalement faire face à tous. C'est un grand classique du cinéma américain.
C'est le côté thriller qui aurait...
Le côté thriller et le côté bon héros face à de l'apathie générale.
Donc plutôt le thriller que le côté film social.
Voilà. Oui. Jean-Michel Dubartel, qu'est ton opinion de toi?
Non, je vous trouve un petit peu timoré, et moi je suis beaucoup plus radical que vous. ce film est une mauvaise action. C'est un faux bon sujet, un sujet dans le vent, et c'est pas cela qu'on peut discuter, c'est d'accord. Il y a même la distanciation par rapport à l'actualité, puisqu'il s'agit de réfugiés tamouls du Sri Lanka qui venaient en masse jusqu'en 2009 en raison de la guerre civile, et que découvre maintenant seulement Audiard. Donc encore un film sur la question des migrants, pourquoi pas. Mais le réalisateur va chercher à 25 km de Paris pour insérer son rodéo dans la très calme cité du quartier de la Coudray à Poissy, qui a été construit dans les années 60 pour les cadres de Sim Catalbo, et où il n'y a pas eu de coup de feu depuis 20 ans. Il n'y cherche qu'un cadre fantasmé pour ses clichés sur les banlieues violentes, qui renvoie du pain aux
mais c'est violent. Ne disons pas jamais où ça se passe, on ne peut pas lui dire d'arriver.
Mais
ça dans un cadre où il n'y a jamais eu de violence.
Oui, laissez-moi acheter, qui renvoie d'Ipane aux violences qu'il a vécues dans son pays et le précipite bêtement à nouveau dans des pulsions sauvages. Pourquoi pas? Dès lors, l'intégration tranquille de ce réfugié modèle bascule dans une apothéose du film de genre et une guérilla urbaine absurde et improbable où Dipan Superman se transforme en justicier à la violence sans frein tandis que crépitent les Kalachnikovs. Pourquoi pas? Pour faire bonne mesure, l'épilogue nous sert un happy end dans une calme et riante banlieue britannique, tout aussi improbable, qui abritera le roman d'amour de Dipan. Ah non, alors là, c'est trop. Et pour couronner le tout, monsieur Audiard, qui nous propose ce divertissement poisseux et injustifiable, se proclame apolitique.
Mais il l'est peut-être. Il l'est peut-être, on l'a reproché d'avoir mis en image des clichés populistes sur la banlieue,
les cités
où
ça.
La police ne met plus les pieds, où on se fait justice soi-même, il faut carcériser tout ça, avait dit quelqu'un, et on lui reproche d'employer ces clichés populistes. Lui dit, je n'ai pas fait un film politique. On peut le croire,
je crois que c'est ce que disent toujours.
On ne peut pas se mettre à la place du réalisateur.
C'est compliqué. Ce que disent toujours les gens de droite.
Je pense que
la prison du prophète n'était pas plus réaliste que la cité. Simplement, on a moins l'habitude, on connaît moins, etc. Cette cité, effectivement, elle a été choisie parce qu'elle était en réfection, c'est tout. Et qu'il y avait donc personne.
C'est un cas de cinéma.
C'est un cas de cinéma.
Qu'est-ce qu'on veut lui reprocher, c'est pas avoir mis davantage de monde dans ce cas.
Je crois que le problème qu'on a, c'est qu'effectivement, pour nous, c'est quand même quelque chose de très fort en ce moment. Et on n'a aucune distanciation, donc on lui reproche et on dit c'est un film politique. Quand le même film se fait dans la banlieue de Los Angeles, on n'a pas l'impression que c'est un film politique, on dit c'est un film américain, puis c'est tout. On a un problème, je pense, de distanciation là-dessus.
Oui. C'est pas
alors, est-ce que Audiard l'a fait de manière innocente
c'est
ou pas?
C'est pas un film politique, c'est un film apolitique. Mais on sait ce que c'est que la politique.
Oui, enfin moi je ne prends pas du tout ton point de vue. Pour moi, c'est ni un film politique, ni un film apolitique. Oui. C'est un film qui raconte une histoire, voilà. Et on y adhère ou pas. Et je trouve qu'il y a quand même des bons moments dans cette histoire.
Très mauvais film.
Je pense que, par exemple, les rapports à l'intérieur du film, entre guillemets, social, il y a de très bonnes choses. Je trouve que le rapport entre la femme de Dipan et le jeune...
C'est la jeune femme.
La jeune femme, excuse-moi.
Et puis, et puis
le jeune dealer,
Ibrahim, ouais.
C'est très intéressant. Pour une fois, il y a un personnage de dealer qui est présenté de manière extrêmement originale.
Oui, puis les rapports à l'intérieur entre le faux mari et la fausse femme, avec la fausse fille aussi. Il y a des scènes qui sont superbes, et puis c'est filmé les vues à travers les portes entrebâillées. En fait, on a du vrai cinéma là.
Moi, j'ai bien aimé ce qu'il dit de la communication.
Je ne trouve nul cinéma là-dedans.
Mais Jean-Michel,
j'ai bien aimé ce qu'il dit de la communication sans les mots. Quand le jeune Caïd Ibrahim communique avec la jeune femme sri lankaise, chacun, ils ne comprennent pas les mots de l'autre, mais ils se regardent et il y a un vrai regard et les hochements de tête. Je trouve ça un grand moment de cinéma que ce dialogue sans les mots entre un jeune dealer et une femme sri lankaise qui arrive de là-bas. J'ai beaucoup aimé. Puis une autre scène où on voit des petites lumières qui dansent dans la nuit, des petites lumières bleues, rouges,
vertes.
On découvre que c'est Dipan qui vend des petits gadgets luminescents, fluorescents. J'ai beaucoup aimé. Il y a de belles scènes.
Ce film est aussi mauvais que ses précédents.
Je ne veux pas me convaincre, mais voilà.
Je ne crois pas le voir, Jean-Michel. Je suis trop radical, c'est pas crédible.
Je suis radical parce que ce film est désastreux.
Bon, on va passer à un autre film que je crois que tu as dit d'être tout à fait désastreux. C'est Marguerite de Xavier Giannoli. Alors donc, on va passer de Jacques Audiard, revenu glorieusement de Cannes, à Xavier Giannoli, rentré bredouille de Venise avec Marguerite.
Il n'a rien eu, lui.
Oui, moi je trouve quand même que le cinéma du second, donc Giannoli, est beaucoup plus intéressant à mon sens que celui d'Audiard, dans son ambition toujours répétée de travailler sur la fragilité de l'identité. Ça, je trouve ça passionnant. Ainsi, quand j'étais chanteur en 2006, c'était le portrait d'un has-been. Dans À l'origine, en 2009, il était question d'un usurpateur d'identité. Et dans Superstar, en 2012, d'un anonyme, souvent devenu célèbre sans raison.
Et alors, Marguerite, dans cette galerie, elle fait quoi?
Marguerite, c'est un nom qui résonne un peu en écho avec la Castafiore d'Hergé, finalement. Hein. Et c'est effectivement un peu l'histoire d'une Castafiore que raconte ce film, dans lequel Giannoli s'inspire de la vie de Florence Jenkins, riche américaine et cantatrice frustrée à la voix de Cressel, qui, encouragée par le silence peureux de son entourage, organise concert privé sur concert privé, jusqu'à se produire enfin en public à Carnegie Hall en 1944, et alors c'est la catastrophe. De l'américaine Florence Jenkins, Giannoli fait la française effortunée Marguerite Dumont, devenue baronne pour avoir épousé un noble désargenté. Il la fait vivre dans les années folles 1920, elle est passionnée d'art lyrique, elle se croit chanteuse, et comme elle est très riche, elle organise des concerts privés où elle se produit. Et comme elle est vraiment très très riche, personne n'ose lui dire qu'elle chante faux comme une casserole et qu'elle exécute la reine de la nuit avec autant de conviction qu'un bourreau tue un innocent. Et tout le monde la couvre de compliments et de fleurs au sens propre du terme. En fait, tout le monde ride d'elle dans son dos, exploite en sous-main sa générosité naïve. Elle épouvante son mari au point qu'il en parle d'elle comme d'un monstre et s'arrange pour arriver en retard à tous ses concerts. Seul l'entoure de son respect, disons même de son adoration, son majordome noir, Madeleine Boss, une étrange figure protectrice qui forme avec elle un couple assez extraordinaire, qui rappelle celui de Eric von Schwein et Gloria Swanson dans Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder.
Oui, et est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une comédie ou...
Puis effectivement, on rit souvent, parce que le sujet lui-même est un sujet de comédie. Comme chaque fois que l'on touche à un type humain extrême, on est dans la comédie. Mais le film comporte beaucoup d'autres niveaux d'intérêt pour moi. J'y vois déjà une corrosive dénonciation de l'hypocrisie bourgeoise et puis de ce comportement social si fréquent qui consiste, pour des raisons complexes où se mêlent l'intérêt, la peur et parfois aussi l'humanité, de pratiquer le mensonge jusqu'au déni et le refus de voir jusqu'à l'aveuglement. Je vois également l'intérêt dans la création de cet univers surréaliste où vit Marguerite, enfermée complètement dans sa passion et s'étant créé un environnement délirant qui en est le reflet. Je vois aussi l'intérêt dans la qualité esthétique du film, dans la beauté, l'étrangeté de ses décors, dans le travail sur la couleur qui lui donne une atmosphère particulière. Et puis peut-être, au-delà de tout, il y a l'interprétation de Catherine Fro qui habite le personnage. Ma Catherine Fro et Marguerite.
Ah oui, elle est
beau. Mais Jean-Michel, je crois que tu n'avais pas du tout partagé cette réaction.
Pas du tout, parce que pourquoi faire un tel film? Giannoli nous avait déjà fait part de sa fascination pour le chant avec Quand j'étais chanteur en 2006 avec Gérard Depardieu. Il récidive avec cette histoire inspirée d'une castafiore américaine, tu l'as dit, bien émouvante dans sa sincérité, mais bien improbable à l'écran, dans la naïveté que lui attribue le réalisateur et qu'incarne Catherine Fro. Jusqu'à la démesure, jusqu'à la caricature. Alors si ce personnage commence par nous toucher, encore qu'une réplique comme « l'argent n'est pas important, ce qui est important c'est d'en avoir », bien banal, nous hérisserait plutôt. Très rapidement, et avec la répétition des flatteries et des lâchetés de son environnement que tu as souligné, il nous lasse et nous peinons à nous laisser convaincre, piste intéressante, que le désir de Marguerite de reconquérir son mari explique en partie son obstination. On aurait préféré qu'elle cherche ouvertement à confondre ses serviles admirateurs et faire la démonstration de la puissance de l'argent, ce qui n'est pas fait. Certes, sa folie et ses outrances contrastant avec la veulerie de son entourage et l'inquiétude croissante de son coupable mari sont un beau sujet, et la performance d'acteur de celui-ci, comme celle de son majordome noir, qui est un mauvais esprit, qui ne la protège pas, mais qui au contraire l'entraîne dans le drame, et la performance de son maître de chanson, très réussie, avec Michel Faux, mais en dépit de son apparente fidélité au modèle, le film est de plus en plus ennuyeux au fur et à mesure qu'il se déroule, et Marguerite elle-même manque singulièrement de panache.
Oh, on a le sentiment que t'as pas aimé le film.
Je crois que c'est une mauvaise période pour Jean-Michel. moi, j'ai bien aimé le film. Je pense que ce qui m'a semblé le plus intéressant dans le film, c'est la réflexion sur le mensonge et la manipulation.
Oui, c'est parce que
le mensonge va au fond bien au-delà des courtisans qui ne pensent qu'à l'argent de la dame. C'est ça qui est intéressant. Parce que il y a dans le film au fond beaucoup de mensonges par amour, par faiblesse, parce que les proches de Marguerite se trouvent englués dans une spirale du mensonge dont ils n'arrivent pas à sortir. Et quand ils veulent le faire, comme le professeur de chant ou le mari, ils reculent au dernier moment. Parce qu'il n'ose pas finalement faire autant de peine à Marguerite. Et puis ce que je trouve aussi très intéressant, c'est la manipulation. L'idée de le placer dans le Paris des années 20 est géniale. La manipulation dans un but artistique. C'est-à-dire finalement de récupérer cette mauvaise chanteuse pour en faire de l'art dadaïste. Ça c'est aussi une forme de mensonge intéressant. Et puis il y a, comme tu le disais, ce personnage diabolique, ce démiurge là, une sorte de Pygmalion aussi, ou de Méphisto, qui protège sa maîtresse, mais en même temps l'encourage, la conforte dans sa folie, et finalement finit par mettre en scène sa mort comme un tableau vivant. Donc il y a un côté tout à fait diabolique.
Tout à fait, oui.
Non, mais je trouve que c'est un film.
Il met sa maîtresse en scène.
Il met sa maîtresse en scène.
Il ne faut pas changer de scénario.
Donc non, j'ai trouvé qu'à partir d'un fait divers, alors tu faisais la référence à la Castafiore, je pense que le nom de la dame aussi,
c'est voulu
et c'est la Margaret Dumont des Marx Brothers, la fameuse mécène que Groucho à la fois courtise et injurie pratiquement tout le temps. Donc on a aussi cette référence-là. C'est un fait divers léger, mais j'ai trouvé que Giannoli en avait fait quelque chose d'intéressant.
J'ai encore regret dessus. Jean-Michel a détesté, Jacques a bien aimé, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, je le reconnais. Pour moi, c'est un mélo, c'est un beau mélo. Il n'y a pas beaucoup de mélos dans le cinéma français. Et j'étais ravie de me dire, c'est un vrai beau mélo. Ensuite, moi j'ai été très touchée par le personnage de Marguerite, je l'ai pas trouvé... Ouais, et bien sûr qu'elle a un comportement ridicule, mais je l'ai trouvé pathétique, je l'ai trouvé tragique. Et j'ai pensé que cette femme qui chante faux, elle ne pouvait de toute façon pas chanter juste, parce que quand on est seul à ce point-là, quand on est dans une telle solitude, on ne peut plus chanter juste. Et il est reconnu que chanter est une forme de jouissance. C'est ça qu'elle veut, c'est ça qu'elle cherche et qu'elle n'obtient pas. Elle veut qu'on l'écoute, elle veut qu'on l'entende, elle chante pour exister, elle veut qu'on l'aime et pas que on l'aime, elle veut que son mari l'aime.
C'est ça, elle chante pour son mari.
Elle chante pour son mari.
Il y a une très belle histoire d'amour finalement.
Et certes, c'est un mélo, mais j'ai refusé de me laisser, de la laisser être ridiculisée. Je pense que dans cette femme, il y a quelque chose qui est profondément touchant et je défends le film aussi pour la beauté des images, pour les cadres incroyables de la chambre, avec ce bric-à-brac invraisemblable, avec une espèce de, non pas de reconstitution en tout cas, mais de, comment je dirais, d'une évocation de cette époque-là qui m'a beaucoup plu. J'y ai trouvé beaucoup de plaisir. Voilà. Ouais.
Et puis moi, enfin, j'insiste un peu sur cette relation d'amour entre elle et son mari. Enfin, c'est un peu discret, je sais pas, comme une harpe au milieu de percussions d'orchestre. Hein. Mais elle est là, cette harpe. Moi, je trouve que c'est avant tout pour son mari que Marguerite chante.
Oui,
elle, oui mais même, c'est pas creusé.
Et même c'est pour ne pas l'entendre chanter que lui ne vient pas tellement il a peur.
Il a honte.
Je crois qu'il y a une relation qui ne doit pas s'établir et qui s'établit qu'à la fin. Et je trouve ça très touchant.
Et je crois que c'est.
Enfin, la réalisation ne va pas jusqu'au bout, c'est ça qui était intéressant, mais le reste, les courbettes de tous ces commensaux sont très banaux et très répétitifs.
Oui, mais ça c'est dans le comportement, si tu veux. Moi, je vois plus davantage dans le, enfin, elle brise sa voix. Elle brise sa voix à force de la chercher. Il y a quelque chose de pathétique là-dedans. À force de chercher ce qu'elle n'obtiendra pas, si au moment de sa mort, parce qu'on est dans un mélo. Mais elle brise sa voix à force de la chercher. Il y a quelque chose qui me touche dans le personnage profondément.
Oui, et d'ailleurs l'approbation des commensaux, comme dit Jean-Michel, est en fait assez limitée dans le film. On le voit beaucoup au début et ça disparaît très très vite. En fait, c'est une femme qui plutôt se retrouve assez vite seule, quoi.
Ouais.
Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Jean. Les relations avec le mari sont très intéressantes. Il la voit comme un monstre, mais il l'aime.
Mais il évolue drôlement entre le début et la fin du film.
Il lui a tout pris la sauver à la fin.
Il l'a sauver.
Il sait que si elle se rend compte de ce qu'elle fait, elle mourra.
Elle va mourir.
Donc tout son attitude consiste en permanence à essayer de faire en sorte qu'elle ne se rende pas compte.
L'empêcher de mourir. Je suis pas convaincu parce que
ce sont de bons acteurs. Ce sont de bons acteurs les trois que j'ai cités, le majordome, le mari et le maître de chant. Ce sont de bons acteurs et j'aime bien les voir, mais je ne crois pas à ce qu'ils font, pas du tout.
Alors que moi j'ai cru. Voilà. Et Catherine Froh.
Et Catherine Froh, elle en fait beaucoup trop. Elle en fait beaucoup trop. Sa voix est beaucoup trop chargée. On peut chanter faux, mais on chante pas faux à ce point-là. C'est tellement ridicule et tellement outré que tout d'un coup, on n'y croit plus du tout. Moi, je la trouve détestable dans ce rôle.
Bon. Ben voilà, c'est bien parce qu'on n'est pas d'accord.
C'est bien, mais...
C'est très bien.
Mais je crois quand même on est trois contre un, Jean-Michel.
Ben oui, mais tu connais les minorités.
Tout à fait. Bon, on va s'arrêter un petit peu, faire une petite pause pour prendre le souffle et reprendra dans quelques secondes, dans 30 secondes. Nous allons reprendre avec le film Youth de l'Italien Paolo Sorrentino. Bon, il y a un cas Sorrentino. Hein. Peu de cinéastes, surtout si jeune, il n'a que 45 ans Sorrentino. Peu de cinéastes divisent autant profondément la critique. Les uns sont éblouis par la richesse de son cinéma, on dit aussi cinéma éruptif, incandescent, baroque, sophistiqué, et on le compare à Fellini. Les autres disent que le cinéma de Sorrentino relève de la contrefaçon et que de l'immense Fellini, il n'est que le minuscule avatar. En 2013, la grande Bellezza avait ainsi déchaîné les passions. Elle se ranime aujourd'hui avec Youth. Mais il y a une autre chose qui me frappe un peu chez Sorrentino. C'est que son cinéma, dont l'excès, l'exubérance, le baroque devait être un peu celle de la jeunesse, est peuplé de vieillards. Le héros dandy de la grande Bellezza avait 65 ans.
Oui.
Le cinéaste et le musicien de Youth sont des octogénaires. Alors Jacques, pourquoi ce titre, jeunesse ?
Ah, le titre est évidemment ironique. Cette jeunesse, est-ce qu'elle est l'objet inaccessible de la quête des deux héros du film ? Ou bien simplement est-ce une plaisanterie, une sorte d'antithèse de ce que Sorrentino nous montre ? Qu'est-ce qu'il nous montre des amis âgés qui vivent plutôt mal leur vieillesse ? Donc on pourrait dire jeunesse égale vieillesse en fait dans le film. Le film nous emmène en effet dans un luxueux hôtel thermal des Alpes suisses où une clientèle riche, un peu âgée, trompe son ennui en essayant de retarder les ravages du temps. Alors qu'on pense bien sûr à 8 et demi et les références au chef-d'œuvre de Fellini sont assez nombreuses dans le film. Alors deux amis d'enfance y viennent régulièrement passer l'été. Fred, un chef d'orchestre interprété par Michael Caine, qui ne dirige plus depuis 10 ans et qui a fait le choix d'une vieillesse sereine, mais qui en fait sombre dans l'apathie. Alors sa fille Lena, interprétée par Rachel Weisz, essaie de le réveiller, mais se dispute avec lui et lui reproche d'avoir sacrifié sa famille à sa carrière. Et à l'opposé, son ami Mick, donc un réalisateur de cinéma, joué par Hervé Keitel, croit rester jeune en préparant, avec de jeunes assistants, un ultime film qui sera son testament artistique. Nos deux amis dialoguent sur les sentiers de montagne, sur leur jeunesse passée, les petites misères de la vieillesse, dans un mélange de mélancolie et d'ironie qui est assez réjouissant, jusqu'à ce que le destin, sous la forme d'un émissaire de la reine d'Angleterre et d'une vieille actrice admirablement caricaturée par Jane Fonda, change le cours de leur vie.
Oui, enfin, on a quand même l'impression d'une trame où il ne se passe pas grand-chose, hein, sur laquelle Sorrentino a greffé de nombreuses variations pour l'enrichir.
Oui, alors c'est vrai, il y a la trame principale, et puis, comme très souvent chez Sorrentino, les personnages principaux sont entourés de toute une galerie de personnages secondaires. Alors on trouve un jeune acteur qui travaille un rôle qu'il ne sent pas très bien, une jeune et pas très jolie masseuse qui occupe les rêves de Fred, un sosie de Maradona sous bonbonne d'oxygène mais qui est encore capable de jongler du pied avec une balle de tennis, une Miss Univers qui fait fantasmer les deux amis, ou un alpiniste philosophe qui console Lena de ses peines de cœur. Alors ce sont tous des personnages qui renvoient à Fred et Mick l'image de leur propre déclin ou qui réveillent des fantômes de leur jeunesse. Le récit est donc émaillé de nombreuses scènes, plus ou moins connectées à nos deux héros, mais qui crée une ambiance à la fois ironique et morbide, et le tout dans des images très sophistiquées, car, tu le soulignais, c'est une autre caractéristique de Sorrentino, son extrême attention à la qualité des images, des cadrages superbes, très variés, des couleurs somptueuses qui accentuent l'aspect chromo des montagnes suisses. Certaines scènes, comme le défilé des curistes ou l'apparition fantasmée des actrices que Mick a dirigées dans sa vie, alors s'inspirent ouvertement de Fellini, même si elles sont travaillées dans un tout autre style. D'autres sont plus originales, comme ce concert de Clarine, dans lequel Fred retrouve le plaisir de diriger, même s'il dirige un troupeau de vaches, quoi.
Alors comme souvent, hein, à propos de Sorrentino pour ce film, on a envie de poser la question, hein, est-ce qu'il ne fait pas de l'esthétisme pour l'esthétisme ?
Ah, c'est la grande question. Ben, Sorrentino a ses fans et ses critiques, et ce film, comme tu le soulignes, a reçu à Cannes un accueil extrêmement controversé. C'est sans doute un des films les plus controversés à Cannes. On peut en effet être irrité par ces images qui sont très, voire trop sophistiquées et par cette ironie constamment présente. On peut trouver aussi que les échanges pseudo-philosophiques de Fred et Mike et Mick ne volent pas très haut et enchaînent les lieux communs. Mais, et c'est mon cas, on peut aussi se délecter de ce cinéma très inventif qui parle finalement de questions assez fortes, assez existentielles à travers une comédie caustique. Et ajoutons que les deux interprètes principaux sont remarquables et qu'ils contribuent largement au plaisir que l'on peut prendre à ce film.
Oui, ben Françoise, est-ce que toi aussi tu as trouvé ce film trop esthétique ou bien est-ce que tu t'es laissé aller à ces images ?
Moi j'avais un plaisir fou à voir le film. Un plaisir fou parce que j'ai eu de vraies émotions visuelles. J'ai trouvé le film avait une grande force esthétique et ça m'a enchantée. J'ai beaucoup aimé aussi le ton du film parce que contrairement à Marguerite, c'est pas un mélo et le film aurait pu être un mélo. J'aime bien aimer ce ton grinçant, un peu décalé, une espèce d'ironie caustique, une certaine clownerie qui permet de prendre des distances face au bouleversement qui est mis en scène dans la dernière, à la fin, au moment où Fred dirige les Simple Songs devant la guerre, devant la reine d'Angleterre. J'ai été très sensible au, comment dire, à la façon dont Sorrentino met en image ce qui habite ces deux octogénaires face à la jeunesse du monde. L'un qui va abandonner le monde, c'est Mick, et Fred qui au contraire va choisir en quelque sorte de continuer de vivre ce qui lui est proposé. J'étais très sensible à ce choix.
Oui, donc à cet aspect de personnage, j'allais oui. À cette évolution des oui. personnages tout au long du film.
Et la façon Jean-Michel. De mettre en scène.
Oui, vous voulez me rendre fou, bluff, Esbroufe et compagnie. certes, dans ce film, les deux protagonistes confrontés à une jeunesse indifférente, mais toujours désirable, méditent sur une vie qui est derrière eux, avec une élégante frivolité de grand seigneur. Depuis ses premiers films, le réalisateur choisit de traiter avec virtuosité, mais ostentation, des sujets baroques et provocants avec les moyens d'une esthétique flamboyante, mais exhibitionniste, qui souligne ici la trivialité ou quelquefois même la vulgarité des dialogues et l'absence de scénario. Certes, on n'attendait pas de Sorrentino une évocation sereine de la vieillesse, mais les allusions laborieuses au cinéma mordant et sarcastique d'un Ferreri où le défilé un peu lourd de personnages féliniens font mesurer toute la distance qu'il y a entre les maîtres et un talent cabotin qui n'arrive pas à trouver son originalité. La banalité récurrente des échanges dérisoires entre les deux vieillards et la sagesse anxieuse qu'ils distillent peuvent procurer aussi le sentiment que le film, malgré des acteurs brillants et convaincants, tombe rapidement en panne, tandis que sa vaine course à la beauté plastique se dissout partiellement dans la médiocrité du propos.
Oui, bon, une fois, là encore, je suis en totale opposition avec toi. Bon, tu parles justement qu'il n'y a pas de scénario, mais je suis bien d'accord qu'il n'y a pas de scénario. Je dirais même que c'est
donc d'accord.
Non, pas du tout. Enfin, je suis d'accord, il n'y a pas de scénario, mais c'est la force du film pour moi. Parce que pour moi, je me suis laissé complètement envoûté par ce film, et je dis que je l'ai préféré encore la seconde fois que la première, et je l'ai même préféré La Grande Bellezza, que je trouvais finalement un petit peu longue. En fait, ce que j'aimais dans ce scénario, dans ce film justement, c'est que peut-être, on se laisse aller à une succession d'images. Mmh. Exactement de la même façon que dans l'existence, dans les moments où on est un peu déconnecté de la réalité, ce qui est le cas des personnages, on s'abandonne à des associations d'idées.
De la poudre aux yeux.
On est en permanence associé au courant de pensée de ces deux amis. Courant de pensée alimenté par les petits événements, par les rencontres, par les fantasmes, et tout ça engendrant des images qui effectivement ne se rattachent pas à un récit, ne se rattachent pas à un scénario, mais c'est justement pour moi leur force et leur intérêt.
Courant de pensée médiocre, image surfaite et
la stigmatisation est facile, Jean-Michel.
Mais c'est facile, tu t'es élevé du mauvais pied pour trois films, mais tu peux pas.
C'est l'actualité cinématographique de ce mois.
Non, c'est un film qui est superbe. Ouais. On peut effectivement, je dirais, ne pas rentrer dedans, bon, ça j'admets. Mais il y a des images qui sont extraordinaires et qui sont d'une invention extraordinaire.
Racoleuse.
Mais alors tout grand réalisme,
Fellini racoleur. Des images magnifiques.
Ne compare pas Sorrentino et Fellini.
Et Visconti racoleur. Non, c'est je veux dire, ça c'est irrecevable.
C'est un film visionnaire, c'est magnifique.
Visuel en tout cas, et c'est bien pour un film.
Puis il y a tellement peu finalement dans notre film actuel de gens qui font des
belles images. Sorrentino est une valeur surprise.
Je suis complètement d'accord avec toi.
Enfin sortir du docu-fiction.
Là, on est dans du cinéma. On peut aimer ou pas aimer, mais c'est du cinéma. Oui. On passe à des tout petits, très gros plans avec des. On n'a pas de systématisme, on n'a pas du cadrage de plans à moyen pendant 10 minutes systématique. On a vraiment une inventivité.
C'est du cinéma, mais du mauvais cinéma.
Ah ben, tu l'as trouvé mauvais.
Et puis c'est un film sur le choix. Et une fois n'est pas coutume, mais je me dis que on peut y voir quelque chose qui ressemblerait à J'ai mis devant toi la vie et la mort. Tu choisiras la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Et une fois n'est pas coutume, mais je pense que c'est une mise en scène de ce choix qui est un choix infiniment difficile, avec talent. Je comprends que tu ne sois pas rentré dans le film, Jean-Michel, mais on peut aussi y rentrer.
Tu oublies que les vieillards ne parlent que de leur prostate.
Oui, papa,
eh bien, j'ai pas trouvé ça. Je pensais que quand il dirige les Simple Songs qu'il avait composé pour sa femme et que cette fois-ci c'est une jeune soprane qui les chante, mais qu'on voit le visage vieilli et figé de sa femme qui se profile derrière l'orchestre, j'ai été bouleversée. J'ai été bouleversée par cet homme qui, tout en étant d'une fidélité certaine à sa femme, à ce qu'elle a été, accepte que le chant soit à nouveau chanté pour qu'il vive. pour que ce chant vive et ne meure pas avec la vie du corps.
Et leur discours sur leur prostate, comme dit Jean-Michel, on voit très vite que c'est pour masquer des questions qui sont beaucoup plus fortes. Dire, on parle de ça justement pour masquer.
Une explication.
Alors, on va peut-être rester entre l'émerveillement et la prostate. Ça fait un bon choix. Vous passez au coup de cœur parce que sinon on n'aura pas le temps de les faire. Écoute, Jean-Michel, à toi la parole pour au moins un film que tu auras aimé au cours aujourd'hui.
Oui, j'ai trouvé un film très plaisant qui m'a remis dans mon âme d'enfant parce qu'on peut aller le voir en famille et je le conseille vraiment à toutes les familles. C'est le prix du jury au festival du film d'animation à Annecy. C'est un film d'animation historique, effectivement, du grand cinéaste Keiji Hara, un japonais qui avait écrit Un été avec Kou et Colorful, pour ceux qui l'ont vu, moi je ne l'ai pas vu, puisqu'il s'agit du portrait animé de Ohei, une des quatre filles du grand artiste japonais maître Hokusai, le vieux fou de dessin, comme il se nomme lui-même, immortalisé par sa fameuse estampe La Vague de Kanagawa. Tous deux résident dans la ville d'Edo, qui est l'actuel Tokyo, au début du XIXe siècle, et ils peignent à quatre mains, avec une grande complicité, dans leur atelier tout à fait taudis, où ils ne font que de la peinture. Ohei est une jeune femme indépendante et rebelle aux accents féministes, qui est tout à fait complice de son père et aussi talentueuse que lui, et qui le supplée souvent pour réaliser certaines commandes qu'il n'arrive pas à faire. S'appuyant sur un manga, terme du reste inventé par Hokusai lui-même, Keiji Hara utilise la forme libre de la chronique au fil des saisons et montre le quotidien excentrique à Edo d'un père et d'une fille, à la fois collègues et concurrents, en donnant la sensualité d'estampes en mouvement aux visites incessantes des élèves du maître et à la vie à Yoshiwara, qui est le quartier des maisons de thé, des geishas et des artistes. Le film traite souvent sur un mode presque comique, il y a du comique dans ce film, les rapports entre les personnages, contrastant avec la position assise ou couchée de Hokusai, sa fille, elle, est debout, elle marche, elle fume, elle se met en colère, elle entraîne en promenade sa petite sœur aveugle que le peintre, effrayé par sa cécité, a tendance à négliger, et en femme libre, elle va partir seule pour peindre de superbes geishas. Elle devra cependant apprendre que les tableaux sont vivants, elle a livré sous la signature de son père un triptyque représentant les enfers, mais la femme de l'acquéreur se réveille toutes les nuits en sueur, se sentant menacée par cette œuvre diabolique, que le maître, appelé au secours, devra apaiser. C'est un très beau portrait d'une femme émancipée. Miss Hokusai est aussi une célébration des pouvoirs magiques de l'art et de superbes échappées oniriques, contraste avec les notations documentaires.
Merci Jean-Michel, on y revoit. J'ai pas vu ce film et tu m'as donné envie d'aller le voir. Françoise, à toi de parler de Amnesia.
Amnesia, c'est le dernier film de Barbet Schroeder, projeté en séance spéciale à Cannes, puis sur la Piazza Grande de Locarno pendant le Festival 2015. Amnesia, c'est un film rare, inclassable, comme l'est aussi son réalisateur, cet homme de 74 ans, qui est encore pour beaucoup d'entre nous le jeune homme brillant, qui collaborait naguère au cahier du cinéma, dans l'effervescence de ce que nous appelions déjà la nouvelle vague. C'est un film ambitieux qui traite rien moins que de l'ambivalence de l'être, ou du clivage qui s'ensuit, à travers le personnage magnifique de Martha. Martha, jouée par la très belle Marthe Keller, elle aussi septuagénaire. Elle est lumineuse, elle porte le film de bout en bout, par un jeu infiniment subtil. De quoi s'agit-il? Eh bien, de cette femme qui, du jour au lendemain, a refusé de parler sa langue maternelle, l'allemand, et ne s'exprime plus qu'en anglais, délibérément. Elle ne veut plus rien avoir à faire avec le pays, la culture ou la langue des barbares. L'histoire se déroule au début des années 90 à Ibiza, dans un cadre idyllique sur la côte sauvage. Martha y vit seule, depuis déjà 40 ans, dans une petite maison blanche qui donne sur la mer. Comme hors du temps, sans électricité, elle s'éclaire à la lampe à pétrole, elle a aussi un violoncelle, dont elle ne joue pas. Un soir, Joe, un jeune Allemand de 20 ans, frappe à sa porte, il est féru de musique électro, et il rêve d'être engagé comme DJ dans la discothèque d'Ibiza. Et Martha instaure une règle, ils ne communiqueront qu'en anglais. Un lien très profond se noue entre eux, un lien nourri de mystère. Et à son insu, Joe va se révéler être un déclencheur. En écho à la toute récente réunification de l'Allemagne, il va à sa façon réunifier Martha, la délivrer de ce clivage douloureux mis en place dans la fragilité de l'adolescence. Barbet Schroeder nous dit « Je ne parle pas allemand, qui est pourtant ma langue maternelle. Ma mère a toujours refusé catégoriquement de me parler dans sa langue. »
Oui, merci Françoise. Jacques, tu as également un film à proposer.
Oui, alors La vie en grand, c'est le premier long métrage de Mathieu Vadepied, qui a été le chef opérateur notamment d'Intouchables.
Alors c'est encore un film sur la banlieue, mais dans un genre très différent, car c'est une comédie tendre, dont les deux héros sont de jeunes collégiens noirs. Adama vit avec sa mère dans un grand ensemble de Seine-Saint-Denis, et malgré son jeune âge, il est amené régulièrement à jouer à l'adulte, car son père vit ailleurs et sa mère est illettrée. Il réussit bien au collège, ses professeurs cherchent à l'aider, lui veut aider sa mère qui rêve d'une vie en grand, et le destin va leur donner un coup de pouce sous la forme d'un paquet de haschich qu'il trouve par hasard avec son ami Mamadou. Alors les deux compères montent un petit commerce artisanal, mais efficace, qui va leur rapporter une jolie somme. Et évidemment, leurs activités commerciales nuisent au travail scolaire d'Adama, qui se fait convoquer chez le directeur avec son père. S'ensuit une scène d'anthologie où un clochard récupéré sur le marché et payé par Adama pour faire le père surjoue son rôle en le tabassant dans le bureau du directeur, ce qui vaut ensuite à Adama toute la sollicitude de l'équipe enseignante et lui permet d'intégrer un bon collège en internat pour faire de bonnes études. Donc vous avez compris que l'on n'est pas dans le réalisme, mais dans une comédie avec de jeunes héros où tout se termine bien, certains l'ont comparé à la Bibliothèque Rose. Les deux jeunes acteurs sont remarquables, le film traite avec beaucoup d'humour de problèmes sérieux, et on passe un bon moment, et un peu d'optimisme sur ce sujet, ça ne fait pas de mal par les temps qui courent. Donc oui, je vous conseille ce film.
Mais merci pour cette cure d'optimisme que tu nous proposes, Jacques. Moi je voudrais parler rapidement de Much Love de Nabil Ayouch. Alors bon, n'allez pas croire que je fais de l'autopromotion, hein, parce que je commence par dire que Profil consacre le prochain week-end un séminaire au cinéma qui résiste au pouvoir et la censure. Bref, un côté Charlie. Enfin, mais si je mentionne ce séminaire, c'est que le film du Marocain Nabil Ayouch y aurait bien trouvé sa place. Oui. On sait en effet que ce film a été interdit au Maroc et que son auteur a reçu des menaces de mort pour avoir traité de manière trop frontale de la sexualité en pays arabe et donné du Maroc une image jugée choquante et inadmissible. Alors de quoi s'agit-il ? De trois jeunes femmes, Noa, Randa, Soukaina, qui vivent d'amour tarifé au Maroc, en Marrakech. Entre moments de détente entre filles dans le logement qu'elles partagent et départ toujours conduite par un mystérieux chauffeur de taxi, le seul homme sympathique du film, départ donc vers la soirée ou le bar où elles sont attendues. Le film décrit leur quotidien dans une société qui, tout en faisant appel à elles comme exutoire à une sexualité frustrée, les utilise cyniquement et les méprise. Alors, il n'y a pas de malécaïsme chez Nabil Ayouch, ni de victimisation de ces femmes. Elles sont vivantes, elles sont fortes, ce sont des battantes, elles sont dotées d'un ressort étonnant qui les fait toujours repartir quand elles sont au fond du trou. Au point d'ailleurs de changer de ville à la fin du film, parce que la situation s'est sensiblement détériorée, aussi bien avec leurs clients qu'avec les forces de l'ordre. Alors, bien sûr, le film est cru, les scènes scabreuses ne sont pas évitées, ni les expressions salaces, enfin bon, ce ne sont pas des enfants de Marie, hein. Et le but du film est bien de faire ressortir le côté aliénant de ces existences. Ceci dit, le film n'est jamais voyeur, il ne tombe jamais dans le piège de son sujet. Alors, on pourra reprocher à Much Love de manquer de scénario, d'être trop répétitif, mais on peut aussi dire que le cercle étouffant où vivent ces héroïnes est bien, hélas, la traduction d'une réalité. Voilà, ben je crois que le moment est venu de nous quitter. Merci à Françoise et à Jean-Michel et à Jacques qui ont animé cette émission. Merci Emmanuel qui en a assuré la réalisation technique. Et merci à tous ceux qui l'ont écouté et que nous invitons à nous rejoindre dans notre prochaine émission Chant contre Chant qui aura lieu le mardi 27 octobre de 13h15 à 14h.